1h05, dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Notre invité de la dernière partie aujourd'hui est un philosophe qui nous vient des États-Unis et qui a la particularité d'enseigner la philosophie à l'Université de Virginie et d'être réparateur de motos dans son garage de Richmond. Il est l'auteur en 2010 d'un best-seller qui s'intitule « Éloge du carburateur » et qui vient d'ailleurs d'être édité en poche aux éditions La Découverte, un livre sur l'importance du travail manuel qui a fait de lui un conférencier très demandé, et ce dans le monde entier. Il a donc passé beaucoup de temps dans les aéroports et il en a tiré le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la crise de l'attention moderne. Ce livre nouveau vient de paraître en français aux éditions La Découverte. Il s'intitule « Contact » et il a pour sous-titre « Pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver ?» Au milieu de tous les aéroports, il s'est arrêté dans un aéroport parisien. Il est donc avec nous aujourd'hui, c'est Matthew Crawford. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Expliquez-nous, Matthew Crawford, comment, depuis les halls d'aéroports que vous avez fréquentés, vous en avez tiré une réflexion sur la crise de notre attention.
Well, when you pass through a public space like an airport, what you find increasingly is that
de plus en plus dans les aéroports, on voit que toutes les surfaces sont consacrées à la publicité. Sans arrêt, nous sommes saisis par des phénomènes extérieurs qui happent notre attention. Le silence est devenu un luxe. Quand vous allez dans le salon en classe business, là, il y a du silence et on ne tente pas d'attraper votre attention. Nous devons réfléchir à une économie politique de l'attention. En effet, il s'agit là d'une ressource rare qui nécessite qu'on y prête attention, mais nous ne savons pas bien comment nous défendre contre cette intrusion de notre intimité.
Et dans votre garage de Richmond, vous pouvez avoir une attention soutenue parce que vous êtes dans le silence?
Well, yeah, I have complete control over the environment.
Oui, là, je maîtrise mon environnement.
Et
lorsque l'on se concentre à la résolution d'un problème, lorsqu'on fait le diagnostic d'une machine, là, il faut une concentration pleine et entière. Et du reste, les choses se font de façon naturelle. Le travail vous absorbe. Dans mon nouvel ouvrage, je parle du rôle des pratiques et des compétences pour le rassemblement de nos énergies mentales, pour nous affranchir de la fragmentation mentale et du manque d'attention dont on se plaint au quotidien.
Matthew Crawford, je ne voudrais pas qu'on fasse preuve d'un marketing qui serait malvenu, mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup quand vous venez en France sur cette double fonction qui est la vôtre, c'est-à-dire un philosophe qui est à côté de cela un réparateur de moto. Et pourtant c'est vrai que ça peut surprendre, c'est assez rare d'être professionnel à la fois dans les travaux manuels et dans les œuvres de l'esprit. Et en même temps, vous vous dites que, contrairement à une idée reçue, quand on a les mains dans le cambouis, eh bien précisément, et vous venez de le confirmer, on se sert de son cerveau, on est disponible. En quoi, expliquez-nous, en quoi une activité apporte quelque chose à l'autre? En quoi ces deux activités pour vous sont complémentaires, voire salutaires, voire sont les deux faces d'un même travail?
Je dirais pas que la tâche manuelle est complémentaire au travail intellectuel. La tâche manuelle est une espèce de travail intellectuel, tout simplement parce qu'il faut réfléchir pour bien travailler de ses mains. Et ce qu'il y a de bien dans les objets, c'est qu'ils vous expliquent tout de suite si vous avez eu juste ou faux. Vous avez un retour d'information direct de la part des objets que vous manipulez. Dans le domaine de la philosophie, on essaye également de faire en sorte que les choses marchent bien et de tomber juste donc par rapport à la réalité. Donc, vous voyez, les deux vont de pair.
Une question d'Antoine Mercier.
Oui. Pour revenir sur cette question d'attention, il y a une captation, vous nous expliquez parfaitement dans le livre qu'il y a une captation de l'attention et on s'en rend compte tous les jours par notamment la publicité, mais pas seulement. J'aimerais bien savoir, disons, aux dépens de quoi cette attention est détournée. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on nous perdons en détournant notre attention, et qu'est-ce que nous manquons. Alors nous manquons, vous dites le réel, mais est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce qui nous manque du fait que notre attention soit ainsi captée?
Mathieu Crawford.
Well, what we attend to determines what's actually present to our consciousness.
Donc, il y a des choses qui sont présentes à notre conscience, des choses que nous considérons comme la réalité. L'enjeu, c'est la capacité à réfléchir. Et si on se trouve dans un espace public, ce que nous perdons, c'est l'espace de sociabilité, la capacité de rencontrer l'autre. Lorsque l'on se retrouve bombardé par le marketing, la réaction consiste à ouvrir une tablette, un roman, un téléphone portable, et ce que nous perdons, c'est l'espace véritablement public où on peut rencontrer des gens par hasard. Et c'est très difficile de se lancer dans une conversation dans un bar, par exemple.
Mais ce qui est très intéressant dans le livre, me semble-t-il, c'est que vous montrez comment la privation de la collectivité qu'entraîne cette captation de l'attention implique aussi une individualisation des personnes et une transformation ontologique, presque, en tout cas anthropologique, des comportements résultant précisément de ce phénomène. Il y a une interaction, c'est pas seulement que nous perdons la collectivité ou le réel, mais nous perdons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous perdons notre singularité.
Yeah, I think we're becoming more similar to one another.
Oui, nous ressemblons de plus en plus les uns les autres.
Partly that's because the mass.
Cela est partiellement dû au fait que les divertissements que nous consommons sont devenus tellement absorbants qu'ils satisfont notre appétit de nouveauté, mais évidemment on devient une proie pour ce qu'a à offrir la télévision, HBO par exemple. C'est plus facile de faire cela que de se lancer dans un roman dont la lecture pourrait être ardue. Il y a une espèce d'homogénéisation de la vie intellectuelle. L'indépendance du jugement nécessite une capacité éclairée de s'exclure des attraits de la culture de masse. L'enjeu de tout cela, c'est le conditionnement envers cette possibilité de l'indépendance de la pensée.
Mathieu Crawford, la tradition de la grande table dans cette dernière partie, c'est de recevoir un invité. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Et quand nous parlons d'un essai comme le vôtre, de le donner à lire à un troisième intervenant qui est à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même. Aujourd'hui, nous avons fait appel au philosophe Mathieu Pot-Bonneville qui a lu avec attention, cette fois j'espère pour lui et j'espère pour votre livre, ce livre. Mathieu Pot-Bonneville, c'est à vous.
Bonjour, avec attention et avec passion. En réalité. En lisant ce livre, je vous écoutais tout à l'heure, Caroline, rappeler que Mathieu Crawford était à la fois philosophe et réparateur de motos. Je pensais à ce que me disait mon professeur de philosophie au lycée. Il me disait toujours, n'oubliez jamais que Spinoza polissait des lentilles pour les astronomes du XVIIe siècle. Et en effet, Spinoza avait une activité professionnelle, une des périodes de sa vie, était de polir ces instruments extrêmement complexes, extrêmement subtils, extrêmement précieux pour la science de l'époque. Et ça n'était pas étranger à la manière dont, chez Spinoza, les objets se définissent par la manière dont ils se composent, dont ils conviennent ou pas à notre capacité d'agir. Or, c'est à peu près cela qui est au cœur du livre de Mathieu Crawford. En fait, ce livre, il se place à l'entrecroisement de deux grandes idées. D'une part, l'idée que le monde actuel sollicite, capte, cherche notre attention de manière permanente et de manière agressive. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Mais face à cette idée, Mathieu Crawford ne met pas du tout en place l'idée que ce serait un scandale parce que nous devons être maîtres de nous-mêmes, parce que nous sommes des sujets autonomes, libres, de purs sujets rationnels. Pas du tout. Au contraire. Si nous sommes sensibles aux sollicitations du monde, si nous sommes sensibles au marketing, à la publicité, c'est parce que les objets doivent nous parler. C'est parce que les objets qui nous environnent font partie de notre capacité d'agir, nous invite à agir. Matthew Crawford reprend le concept d'affordance de la psychologie américaine, qu'on pourrait traduire par l'invite. Les outils, les instruments du cuisinier invitent le cuisinier à une certaine façon de faire de la cuisine. Et c'est le croisement de ces deux idées-là qui fait la force du livre. Du coup, ma question, ce serait au fond celle de la différence entre ces deux manières d'attirer l'attention. Qu'est-ce qui distingue une publicité agressive d'un outil ? L'un et l'autre nous cherchent, mais pas de la même manière.
Yeah, I think the difference is that
la différence vient de ceci. La publicité attire votre attention ou propose des objets très attirants, mais la publicité ne fait pas appel à votre engagement et votre compétence. C'est de manière passive que l'on consomme une expérience qui est fabriquée à votre attention. Donc, dans une pratique compétente, en revanche, là, vous êtes obligé de sortir de vous-même et vous êtes obligé de vous soumettre à la réalité de ce qui vous est proposé. Jouer d'un instrument de musique, par exemple, ou bien pratiquer un sport, le hockey, ou n'importe quoi d'autre. Donc, ce phénomène d'invite, de l'affordance, par rapport à une pratique compétente, exige que l'on soit impliqué dans les activités que nous propose le monde, mais ce, de manière active et surtout pas passive.
Mathieu ?
Oui, ce qui est passionnant, c'est que cela revient à inverser la critique traditionnelle de la publicité et du marketing. D'habitude, on dit la publicité et le marketing, le problème, c'est qu'ils nous sortent de nous-mêmes. Ils nous obligent à quitter notre conscience et notre indépendance. La critique ici est inverse. La publicité, le marketing, nous laisse seuls avec nous-mêmes et nous prive du monde. Là où les outils, les objets, les autres nous sortent de nous-mêmes et nous obligent à entrer en action.
Matthew Crawford.
Yes, that's good. I think,
oui, c'est bien formulé. Ce qui vous est présenté par le marketing, c'est une palette de choix. Donc le marketing vous flatte, il vous place au centre d'un monde. Ce qu'il faut, c'est évidemment créer des désirs, puis proposer les moyens de les assouvir. Et la liberté, telle que nous la concevons habituellement, c'est la satisfaction des préférences. Donc ça, c'est le langage de l'économie, on l'aura bien compris.
En
revanche, s'agissant d'une pratique compétente, là, l'attention que l'on attire vous force à vous soumettre à la réalité. Il ne s'agit pas forcément de choses matérielles. Lorsque l'on se met à apprendre une langue étrangère, il y a là une structure qu'il faut maîtriser. Et là, c'est évidemment, c'est social. Si vous apprenez le russe, par exemple, le russe, évidemment, n'existerait pas s'il n'y avait pas de locuteur de russe. Ce n'est pas une langue in abstracto. Le philosophe Iris Murdoch appelle ça unselfing. On se retire de soi-même. C'est le contraire du narcissisme qu'encourage la culture consumériste.
Ce que vous voulez dire, Matthew Crawford, c'est qu'on n'est pas assez présent à ce qu'on fait. On n'est pas là et quand on fait quelque chose parce qu'on est sans arrêt sollicité et que une pratique compétente, qu'elle soit activité physique, un travail manuel ou autre, nous oblige à nouveau être à ce qu'on est. C'est ça la définition de l'attention, mais qui peut être aussi une suspension de la pensée. L'attention, c'est être entièrement à ce qu'on est, mais on n'est pas forcément en train de penser, on est à ce qu'on est. Matthew Crawford. Mm. C'est ça, c'est retrouver le l'art d'être présent au moment où on fait quelque chose.
Mm. Well, I think connected to presence is just the fact that we have bodies.
Eh bien, quand on parle de présence, il faut d'abord parler du corps. Et la façon dont nous nous orientons dans le monde, c'est grâce au centre que constitue notre corps. Donc il y a la gauche, la droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Et il y a un monde qui est à portée de main, littéralement. Hein. Donc c'est ainsi que nous nous orientons. Que nous nous situons dans le monde. Et cela nous donne un horizon de pertinence. Et ça, c'est important parce que l'attention consiste à sélectionner des choses dans le monde au détriment d'autres. Mais si mon rapport au monde se fait par le truchement d'un ordinateur, ou en quelques clics de souris, je peux regarder la cité interdite de Pékin ou bien les grottes sous-marine, tout est à disposition. Autrement dit, il n'y a pas de base non arbitraire me permettant de décider ce qui est pertinent pour moi et ce qui ne l'est pas. Donc, on est face à un choix infini, une explosion de possibilités. Et en raison de cela, il n'y a pas de principe de sélection ou d'attention. Par conséquent, nous nous trouvons noyés de choix. Et cela génère de l'anxiété en nous et ça peut nous déprimer aussi.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Avec notre invité aujourd'hui, Matthew Crawford, qui est présenté comme philosophe mécanicien, autour de son livre « Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver ?» ou « Comment notre attention est une ressource limitée ?» Autour de la table, le philosophe Mathieu Pott-Bonneville et Antoine Mercier qui vous posent une question.
Oui, je voudrais revenir sur cette relation entre la réalité, le matériel et la pensée. Parce que non seulement le matériel, selon vous, n'empêche pas la pensée, mais au contraire, il y ramène, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait être engagé dans le monde et vous avez fait cette liaison avec cet engagement qui est une condition de la pensée du monde. Est-ce que vous pouvez préciser sur un plan philosophique par quel miracle, j'allais dire, un investissement dans le monde par des objets concrets déploie les conditions mêmes de la pensée, de la possibilité de la pensée ?
Well, one way to get at this is through childhood developments.
L'expérience de l'enfance qui va répondre à cette question. Nous apprenons le monde en le manipulant. C'est un des moyens d'apprendre le monde lorsqu'on est enfant.
So we learn the properties
donc,
of objects
on apprend
by, you know,
les propriétés des objets
by manipulating them.
En les manipulant. Et il semblerait que cela soit fondamental. Il y a un monde extérieur à l'enfant. Ça, c'est fondamental pour l'enfant. Et je crois que
The hands are intimately
il reste vrai que les mains sont liées aux organes cognitifs de notre cerveau. Pas besoin d'être neurologue pour comprendre cela, mais cela a été mis de côté par un certain nombre de doctrines. Ça remonte même à l'âge des Lumières. On commence par Descartes, et là on voit une séparation entre le corps et l'esprit. Il y a des pensées dans la philosophie qui sont remises en question par la science cognitive. Par exemple, il y a la cognition dans le corps, une nouvelle école qui nous dit que c'est par l'action dans le monde que l'on forme les différentes catégories qui nous permettent de comprendre le monde dans ses tenants et ses aboutissants du point de vue intellectuel.
Mathieu Pott-Bonneville.
Oui, on pense au titre d'un très beau livre, d'un autre livre de Richard Sennett qui s'appelait « Ce que c'est la main ce qu'une main peut savoir ». Il ne faut pas se tromper, cet éloge de la présence contre la,
le détournement de l'attention,
la dispersion, ouais.
contre la dispersion, il implique dans ce livre des choix philosophiques qui sont extrêmement radicaux, informés. On pense effectivement à toute une part de la psychologie contemporaine. On pense aussi, pour le lecteur français, à un auteur comme Maurice Merleau-Ponty, qui défendait l'idée que dans le face-à-face entre la conscience et les objets, on oublie quelque chose, c'est le corps. On oublie le corps propre et la manière dont le corps est engagé avec les choses. Donc il y a des choix philosophiques qui sont extrêmement précis. Il y a aussi des choix politiques. Et le choix politique du livre, me semble, c'est de dire que la liberté de choix est devenue un problème. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, défendre la liberté de choix, c'était avoir une attitude critique vis-à-vis des pouvoirs royaux, religieux, etc. Aujourd'hui, la liberté de choix est passée du côté d'une manipulation, hein, où ce sont au fond les grandes entreprises, c'est le big data qui a besoin de notre liberté de choix. Ma question, elle est là. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Comment faut-il changer? Comment est-ce qu'on peut se déplacer par rapport à cet éloge de la liberté de choix?
Matthew Crawford.
Yeah. Right. So freedom of choice is the central idea.
La liberté de choix constitue l'idée centrale de l'économie.
And it posits
cette notion nous dit que la liberté, c'est tout simplement la satisfaction des préférences. On peut remonter aux Lumières, où on analysait la manière dont nous appréhendons le monde. Ce n'est que par notre représentation mentale interne que nous pouvons saisir le monde. Cela participait d'une polémique, d'une compréhension ancienne qui remonte à la métaphysique, la cosmologie aristotélicienne. Ça a été ensuite imbriqué dans les doctrines religieuses et intimement lié au pouvoir politique. Donc tout cela nécessitait une critique. Mais depuis, ces notions de fonctionnement de l'esprit sont imbriquées dans l'anthropologie et la compréhension du fonctionnement de l'esprit humain. Il existe une nouvelle forme d'exploitation et de détérioration de l'esprit humain que l'on ne peut même pas voir, et on ne peut surtout pas les critiquer, si l'on se confine à cette perspective des Lumières, parce que cela repose sur la notion de liberté. Le langage de la liberté est devenu le langage du marketing de Silicon Valley, et ainsi de suite. Ainsi, nous devons à tout le moins risquer d'apparaître comme des critiques de ces doctrines fondamentales en France. Si j'ai bien compris, si l'on parle de tradition et de lumière de manière tout à fait avec des louanges, on va vous taxer de faire partie de l'ancien régime et de faire preuve de trop de nostalgie. Donc je marche sur des œufs lorsque je m'exprime ici.
Mathieu Paul Benville.
Je ne sais pas, parce que on peut retrouver aussi un certain nombre de penseurs, de pensées très fortes. Je pense à la pensée de quelqu'un comme Hannah Arendt, par exemple, qui affirmait que l'inscription dans une tradition est la condition de la liberté politique. Simplement, effectivement, vous défendez un autre modèle, je vous cite, un idéal, au fond, pour le sujet, qui serait de s'inscrire dans ce que vous appelez les niches écologiques de l'excellence humaine. Et vous en distinguez deux dans le livre, que sont l'artisanat et la philosophie. Le philosophe que je suis trouve ça formidable. Ma question, c'est est-ce que c'est une stratégie de survie seulement? Est-ce que ça veut dire qu'on va s'inscrire dans des espaces tout petits et qui vont devenir de plus en plus petits? Ou est-ce qu'on peut défendre cet idéal comme un idéal de progrès, comme un idéal voué à s'étendre, au fond?
Matthew Crawford.
Yeah. I think there's a risk in trying to universalize.
Il serait risqué d'universaliser
the experience of philosophy.
L'expérience de la philosophie.
It's what tempts the philosopher to ally himself with political power.
C'est ce qui tente le philosophe de s'allier au pouvoir politique pour que le philosophe puisse concrétiser dans le monde sa pensée et transformer cette pensée dans un dogme populaire. L'autre possibilité qui ne me rend pas plus à l'aise serait cette retraite épicurienne. On se retire, on a son petit jardin de pensée, on se désengage du reste du monde.
Ce
que l'on peut peut-être faire, c'est essayer de modéliser pour les autres ce que pourrait être une pensée non idéologique, dans l'espoir que certains individus, ici ou là, trouveront là quelque chose qui contribue à leur propre effort d'être libre de penser. Ça semble un peu présomptueux de dire tout ça, mais bon.
Oui, pas tellement en même temps, parce que sur le plan politique, on se demande pourquoi vous n'êtes pas plus, j'allais dire, dur, pourquoi vous ne dénoncez pas davantage tout ce système qui entraîne et qui est à l'origine de la captation. Vous dites à la fin du livre, en lisant l'épilogue, « S'il vous plaît, évitez de mettre des haut-parleurs dans tous les recoins des centres commerciaux et jusque dans les espaces extérieurs. S'il vous plaît, abstenez-vous de remplir tous les temps morts d'un match de baseball, etc. J'aimerais pouvoir éteindre l'écran à l'arrière du taxi. Pourriez-vous prévoir un coin de votre bar où je serais dispensé des clips publicitaires, etc. etc. » Est-ce que ça fait un programme politique ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le système actuel organise précisément cette captation, car il y a forcément à l'œuvre quelque chose de puissant pour que tout se mette dans ce sens-là.
Yeah, I once was in another airport. Now I spent a lot of time.
Pour revenir aux aéroports, je passe beaucoup de temps dans les aéroports. Un jour, j'étais dans un aéroport et j'étais épuisé. Je revenais de France d'ailleurs et je me rendais vers Détroit. Transition culturellement assez ardue, vous en conviendrez. Donc, me voilà dans l'aéroport. Il y a là un salon avec des écrans de télé partout. Et j'ai levé la main pour dire, est-ce que ça embête quelqu'un si j'éteins cet écran-ci? Et immédiatement, quelqu'un a dit, mais je vous en prie, allez-y, faites-le, on attendait que ça. Donc je me suis levé, je me suis approché de l'écran, et il n'y avait pas de bouton, et impossible de débrancher. J'ai appris une leçon. Les écrans ne sont pas là parce que les gens les veulent. C'est pas du tout la demande qui provoque la présence de ces écrans. Et d'ailleurs, on ne peut pas expliquer ça par la soif du lucre. C'est devenu une espèce de norme culturelle bizarroïde. Personne n'est responsable. C'est très difficile de comprendre pourquoi ce phénomène a lieu.
Is it that we have an existential dread of silence?
Est-ce que nous craignons le silence pour des raisons existentielles? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai un espoir. Rien qu'en signalant à quel point c'est ignoble, tout ça, et tout le monde est d'accord, je lève la main pour dire on éteint les écrans, tout le monde est d'accord. Rien qu'en signalant cela, j'espère que l'on pourra susciter une prise de conscience et peut-être changer les décisions que prennent les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage dans les aéroports et ailleurs. C'est infime, certes, mais ce serait un pas en avant dans l'amélioration du tissu de notre vie quotidienne.
Ça dépend de chacun, donc.
Well, the hope is that it would become a part of a general awareness.
Mon espoir, c'est que ça pourrait faire partie d'une prise de conscience collective. L'espace consacré à la pensée doit être défendu.
Un réalisateur français était d'accord avec vous, Mathieu Crawford, donc ça. Ça s'étend aussi. Livre, essai, réflexion, cinéma, c'était Mathieu Amalric, un autre Mathieu, décidément, dans un film qui s'appelle Tournée, et où il joue le rôle d'un homme qui est en tournée avec son équipe de femmes, et ils vont d'hôtel en hôtel, et dans les hôtels, aujourd'hui, il y a tout le temps de la musique et des écrans de télévision allumés, et il arrive près du hall, dans le hall, près de l'entrée, et demande à la personne s'il est possible d'éteindre cet écran de télévision. On lui répond non, parce que c'est pas nous qui dirigeons cet écran. Nous n'avons même plus les télécommandes, nous n'avons plus rien. Mais il demande instamment d'éteindre cet écran de télévision. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul, Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, en vous lisant, je pensais à un très beau passage dans Le Gai Savoir de Nietzsche, où Nietzsche écrit, j'ai retrouvé la citation, « Voilà une mauvaise époque pour le penseur. Il faut qu'il apprenne à trouver son silence entre deux bruits et à faire le sourd jusqu'à ce qu'il le devienne. Tant qu'il n'aura pas appris cela, il risquera de mourir d'impatience et de migraine. » Et je trouve qu'il y a quelque chose de profondément nietzschéen dans votre livre. En particulier, il y a un passage très beau, j'avais envie de vous demander de revenir sur ce passage, sur la capacité d'admirer. Vous dites au fond que l'une des choses à retrouver dans l'éthique que vous proposez, c'est la capacité d'admirer certains autres. Est-ce que vous pourriez développer sur ce point ?
Mathieu Crawford.
I think our crisis of attention is not simply about intrusive advertising, because there are many things that we willingly invite into our lives,
choses que nous acceptons dans notre vie de manière délibérée et on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Mais je crois que cela met le doigt sur une question plus large de valeur. À quoi faut-il faire attention? À quoi faut-il attacher de la valeur? En réalité, nous sommes agnostiques dans ce domaine. Qu'est-ce qui mérite notre amour? Qu'est-ce qui mérite? Oui, notre amour, oui. Qu'est-ce qui mérite notre admiration? Au cœur de tout cela, il y a un malaise culturel profond sur le bien humain et ce que doit être la vie bonne.
Mathieu Crawford, on vous a demandé de venir avec un choix musical pour terminer cette émission. Comme c'est la règle, l'habitude ici à la Grande Table, vous avez choisi une chanson du groupe Guns and the Roses, Patience. Pour quelle raison?
Oh, it's I think it's beautiful the beginning, you know, minute
of
it.
C'est beau, la première minute. C'est un homme qui siffle.
And with an acoustic guitar.
Accompagné à la guitare acoustique, c'est très simple, une mélodie un peu plus simple, et le titre c'est Patience. Et je crois que la patience est une vertu largement sous-estimée.
Oui, j'aime beaucoup ce choix de Guns N' Roses parce que c'est le seul livre où j'ai lu que Hegel était en quelque sorte un précurseur de Bruce Springsteen.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience.
Je ne sais pas pour les auditeurs, mais je peux témoigner que nous étions tous très attentifs à l'écoute de cette chanson. Merci beaucoup, Mathieu Crawford. Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, traduit par Marc Saint-Huppéry et Christophe Jacquet, apparu aux éditions La Découverte, comme éloge du carburateur qui vient de paraître en poche aux mêmes éditions. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Grande Table. Un grand merci à Xavier Combes qui traduisait vos propos de façon simultanée, à Mathieu Pot-Benneville d'être venu également. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie-Laure Ciboulet et à la technique, Alexandre Dang.